Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. Édouard Rosset.
Bonjour, quel avenir pour la vie privée dans notre société, société dans laquelle bien sûr les médias occupent une place de plus en plus importante. C'est aussi à cette question que s'est intéressée l'Académie des sciences morales et politiques à travers un volumineux rapport dirigé par l'académicien Pierre Tabatoni, rapport intitulé « La protection de la vie privée dans la société d'information ». Alors entre télé-réalité, recherche de scoop pour les journalistes, journal d'actualité, paparazzi, nouveaux médias sur Internet, le rapport lance des pistes de réflexion et aujourd'hui, je vous propose d'en explorer quelques-unes en compagnie de notre invité qui a lui-même d'ailleurs participé à la naissance, à la rédaction de ce rapport. Francis Ball, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints à Canal Académie, professeur à l'Université Panthéon-Assas. Vous avez fondé et vous dirigez toujours l'Institut de recherche et d'études sur la communication et ce qui nous intéresse bien sûr particulièrement dans le cadre de notre émission. Vous êtes membre du groupe Société de l'information et vie privée dans le cadre de l'Académie des sciences morales et politiques.
En même temps, c'est la façon dont on se sert de cette technique pour communiquer quelque chose, pour transmettre quelque chose, pour dire quelque chose. Alors ces techniques, ce sont dans leur ordre d'apparition chronologique la presse, ensuite la presse imprimée, le cinéma, qui est apparu à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle la radio, puis au milieu du 20e siècle la télévision, et enfin Internet. On devrait parler du web parce qu'Internet c'est un réseau. Le web, lui, est véritablement un média parce qu'on sait à quoi il sert, on sait qu'il transmet des informations, on sait qu'il permet de véhiculer des contenus, qu'il s'agisse de morceaux de musique ou de films ou d'émissions de télévision. Par conséquent, on peut dire très simplement qu'il y a 5 médias qui aujourd'hui se partagent des tâches comme l'information, le divertissement, la communication, l'éducation et même la création artistique. Ces 5 médias, ce sont la presse, le cinéma, la radio, la télévision et Internet.
Ce sont des tâches, vous parlez de tâches, des tâches complémentaires qui interagissent en fait entre elles.
Ce sont des toujours menacées pour cette simple raison que de la vie privée, on ne donne pas tous évidemment la même définition. On peut considérer que le statut, par exemple, d'une personne, est-ce qu'il est célibataire, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a des enfants, est-ce que ça fait partie de la vie privée ? On peut le considérer. Est-ce que ses affiliations politiques, ses affiliations religieuses, est-ce que ça fait partie de ce qui doit être maintenu au secret ? C'est une question qui est à débattre parce qu'il est des sociétés qui ne font pas mystère de ce que les gens gagnent, ne font pas mystère de leurs appartenances religieuses. Ça n'est pas le cas en France, c'est le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, on considère que ce n'est pas véritablement porter atteinte à la vie privée de quelqu'un que de lui demander à quelle religion, de quelle religion il se sent proche, s'il est le pratiquant de cette religion.
Oh, si ça se limite à ça, ça va.
Ou même ce qu'il gagne chaque mois. En France, ce sont des questions qui sont taboues. La question de l'argent est une question taboue. On ne sait pas très bien pourquoi, après tout. La question de l'appartenance religieuse est considérée également comme délicate, sinon taboue, parce que nous sommes une terre sur laquelle on sévit des guerres de religion et que par conséquent, le fait d'afficher une appartenance religieuse peut vous entraîner, peut vous exposer à des discriminations. À des discriminations qui ne sont pas toujours favorables, mais qui sont précisément défavorables. Le fait de dire « je suis juif, je suis catholique » peut entraîner de la part d'une certaine part de la population, et non une part négligeable, une attitude de discrimination négative. Par conséquent, les choses étant ce qu'elles sont, on peut considérer que si jamais vous me posiez cette question, je vous dise, ce n'est pas, ça ressortit à ma vie privée, je n'ai pas à vous répondre. Mais c'est une question qui se poserait très classiquement aux États-Unis, où on dit je suis démocrate, je suis républicain, je suis juif, je suis chrétien, sans aucune... derrière un micro. Moi, je sais que pour avoir vécu pendant un an et enseigné aux États-Unis pendant un an, c'est intéressant, comme des enfants, au fond. Par conséquent, on a exploité leur exhibitionnisme, il faut appeler les choses par leur nom, et on a incontestablement étalé ce qui jusque-là n'avait jamais été étalé, sinon peut-être dans les journaux, on a étalé à la télévision, sous couvert encore une fois de science, comme si la psychologie était une science ou que la psychanalyse était une science, des difficultés personnelles, qui était de l'ordre du privé. Et par conséquent, c'est vrai que se donnant en spectacle, se donnant en exemple, montrant qu'après tout, tout le monde pouvait surmonter les difficultés psychologiques qu'il rencontrait, on a vulgarisé, on a popularisé l'idée selon laquelle il n'y avait pas de honte ou il n'y avait pas de gêne à avoir à raconter des choses qui normalement ne se racontaient pas il y a une ou et a fortiori deux générations, qui restaient des secrets de famille en quelque sorte, ou ce petit tas de secrets, comme disait Malraux, que chacun doit garder avec soi et qui n'a aucun intérêt pour les autres. Alors, dans la brèche ouverte par ces psychos, sur d'ailleurs des chaînes publiques, on a vu apparaître ensuite d'autres émissions qu'on a appelées les émissions de réalité, la télé-réalité, qui n'a pas grand-chose à voir en réalité avec ces psychos, qui était simplement le spectacle d'adolescents qui vivaient entre eux et qui acceptaient la règle du jeu, c'est-à-dire d'être filmés, non pas 24 heures sur 24, mais 23 heures sur 24, puisque le CSA exigeait qu'ils aient une heure de paix pendant laquelle les caméras, par conséquent, n'étaient pas braquées sur eux. Bon.
Vous parlez de Star Academy, enfin de Love Story.
De Love Story. Story. Love Story a été la première émission baptisée de télé-réalité. En réalité, c'était une émission qui ne pouvait pas apparaître avant parce que simplement, il y fallait des équipements particuliers, il y fallait des micro-caméras nombreuses, invisibles pour tous et qui pouvaient par conséquent capter les mouvements de tout un chacun à l'intérieur d'un appartement à tout instant. S'il n'y avait pas eu les micro-caméras, la miniaturisation concrètement de la captation du son et surtout de l'image, il n'y aurait jamais eu.
Directeur de l'Institut de recherche et d'études sur la communication. Alors, Francis Ball, comment concilier rigueur de l'information et demande du spectateur, de l'auditeur, de l'internaute? Est-ce que réellement un journaliste peut être rigoureux face à la somme d'informations que lui demande aujourd'hui le public? Est-ce qu'il n'est pas tenté d'aller trop vite, d'aller trop loin?
Vaste question. Il faut savoir que l'information est un exercice, c'est une mission impossible. Le journalisme est vraiment une mission impossible pour la bonne et simple raison que le journaliste a pour vocation de s'adresser à un public large, par conséquent un public qu'il doit captiver à tout prix, qu'il doit conserver, dont il doit conserver l'écoute. Et en même temps, c'est un public qui est hétérogène. Par conséquent, qui sur un sujet donné sont ou très avertis ou bien n'y connaissent rien du tout. Par conséquent, la difficulté est très grande car le journaliste parle d'un événement qui pour lui est un prétexte pour aborder un sujet donné, sujet où il lui sera toujours les interprétations à d'autres. Et puis il y a le chroniqueur qui lui, bien entendu, à partir de ses faits, se livre à des interprétations qui sont forcément subjectives, forcément moins objectives, forcément marquées par sa propre vision du monde, par sa propre vision des choses. C'est très difficile de faire le départ entre les deux, parce que concrètement, tout journaliste est à la fois vigilant à l'endroit des faits, et on est extrêmement exigeant dans le journalisme anglo-saxon, et on est aussi, on est obligé aussi d'interpréter un tout petit peu. Et ce qui fait la faiblesse du journalisme latino-européen, le nôtre, celui dans lequel nous vivons, c'est que le prestige va plus facilement au chroniqueur, celui qui fait un éditorial, celui qui livre sa propre interprétation des événements. Le prestige va beaucoup plus vers lui, chroniqueur, que vers le fantassin de l'information, c'est-à-dire celui qui, reporter sur le terrain, correspondant de guerre, etc., ne doit jamais dire plus qu'il n'en sait, mais essaie de... Pour lui, les faits sont parfaitement sacrés et il n'a pas le droit d'y mêler le contexte et d'en comprendre, de lui donner un sens, de lui donner du sens, comme on dit.
La liberté de la presse est importante. Ce serait diminuer leur importance que de croire que les journaux ne servent qu'à garantir la liberté, ils maintiennent la civilisation. Ce que disait Tocqueville, et que vous citez d'ailleurs dans votre Que sais-je, ce que disait Tocqueville au XIXe siècle est encore vrai aujourd'hui ?
Oui, c'est plus vrai que jamais. C'est plus vrai que jamais. La meilleure preuve, c'est que le slogan « Pas de liberté sans liberté de la presse » connaît une certaine fortune.
Reporters sans frontières.
Voilà, c'est Reporters sans frontières. Et je trouve que c'est un superbe slogan parce que si on l'examine attentivement, ça veut dire que la liberté de la presse n'est pas à égalité avec les autres libertés. Ça veut dire que la liberté de la presse, c'est la condition d'existence et de possibilité des autres libertés. Pas de liberté sans liberté de la presse, c'est-à-dire que la liberté de la presse est chronologiquement première et elle est logiquement première. S'il n'y a pas la liberté de la presse, c'est pas la peine de compter sur les autres libertés. Les autres libertés ne peuvent pas exister puisque par définition, les gens ne peuvent pas s'exprimer librement, ne peuvent pas communiquer l'expression de leur pensée librement. Je ne peux ni émettre une pensée, ni la recevoir.
Moyen de divertissement ou bien support pour des œuvres capables de nous émouvoir. Alors c'est à la fois bien et puis source de méditation quand même, non ? Un média qui s'échappe à lui-même.
Oui, mais qu'une technique, lorsqu'elle apparaît, n'est pas à la naissance, pour me reprendre une feuille de route, c'est parfaitement normal. Qui savait à quoi allait servir Internet lorsqu'Internet a été popularisé au milieu des années 1990 ? Qui savait à quoi pourrait servir la radio lorsqu'elle est née dans les années 1910-1920 ? Qui pouvait imaginer que la télévision allait, avant 1960, jouer un tel rôle sur le terrain de l'information ? Avant 1960, la télévision existait déjà depuis 1945 aux États-Unis, depuis 50 ou 52 en France et en Europe, jusqu'en 1960, on s'imaginait que la télévision ne pouvait exceller que sur le terrain des variétés. On voyait dans la télévision la possibilité d'avoir du cinéma à domicile, mais sur plus petit écran. Et dans de moins bonnes conditions, puisque le son était quand même particulièrement défectueux à l'époque. Ce n'était pas encore la haute définition, ni la hi-fi d'aujourd'hui. Et en 1960, il s'est produit quelque chose de tout à fait inattendu, c'est l'élection de Kennedy à la présidence des États-Unis en novembre 1960. Personne ne connaissait, enfin personne, en tout cas il n'était pas donné gagnant quelques mois auparavant, en mai 1960, face à Nixon, qui lui était un vétéran de la politique, dont tout le monde était sûr qu'il allait remporter la présidentielle quelques mois plus tard. Il a suffi de 3 débats télévisés en duplex, c'est-à-dire que les 2 candidats n'étaient pas en face à face physiquement, mais ils étaient présents simultanément sur l'écran de télévision, pour que soudain, Kennedy soit connu du plus grand nombre et que concrètement, les téléspectateurs se tournent vers lui et votent pour lui. On a donc découvert d'un coup, d'un seul, que la télévision était un moyen d'information, un moyen aussi pour propager un certain nombre d'idées, pour faire connaître des hommes politiques qui jusque-là n'avaient à leur disposition que les préaux d'école, ou bien la radio, ou bien entendu, la presse depuis plus d'un siècle. À partir de 1960, vous avez vu se multiplier dans toutes les télévisions du monde, non seulement les journaux télévisés, mais surtout des magazines d'information. 5 colonnes à la une en France, c'est-à-dire ce que représente aujourd'hui le 60 Minutes à la télévision américaine ou bien le envoyé spécial sur France Télévisions. Par conséquent, personne n'imaginait avant 1960 que la télévision pouvait faire effraction sur le terrain de l'information. Et tout le monde pensait que la presse avait ad vitam aeternam l'exclusivité de l'information. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est que la presse, les journaux, font de plus en plus variables. On ne peut pas dire aujourd'hui que la presse est le monopole de l'information. On ne peut pas dire que la télévision est le monopole du divertissement. On ne peut pas dire que la radio soit la seule à véritablement parler de musique ou en tout cas de transmettre de la musique.
Mais l'ensemble forme d'ores et déjà le fameux quatrième pouvoir. Radio plus télé plus cinéma, quatrième
pouvoir.
Quand
on parlait du quatrième pouvoir, on désignait seulement les organes d'information, les grands médias d'information, presse et télévision, c'est vrai, qui étaient dominants, considérant qu'ils exerçaient une influence décisive et qu'ils soumettaient à leur loi les trois autres pouvoirs, c'est-à-dire, on devrait dire, les deux autres pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire n'étant là que pour veiller à ce que les lois soient véritablement respectées par tout un chacun. Par conséquent, quand la formule quatrième pouvoir a été utilisée pour la première fois par un philosophe anglais qui n'aimait pas la Révolution française, c'était déjà pour dénoncer la libre parole. C'était déjà pour dénoncer, par conséquent, la presse dont il pensait qu'en ayant conquis sa liberté, elle allait menacer les pouvoirs, les trois pouvoirs, principalement les deux pouvoirs auxquels Montesquieu avait songé. Donc, moi je n'aime pas l'expression quatrième pouvoir parce que il n'y a en vérité que deux pouvoirs, il y a le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, qui sont des pouvoirs de contrainte. Ce sont les deux seuls pouvoirs qui ont la capacité de contraindre les membres d'une même société. D'ailleurs, on parle de l'autorité judiciaire et non pas du pouvoir judiciaire, parce que l'autorité judiciaire est là pour veiller au respect par tous de la loi. Alors, je n'aime pas l'expression quatrième pouvoir pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la presse, en général, les organes d'information, les médias d'information, ne sont pas aussi puissants qu'on l'imagine.
Ah bon ?
Ils ne sont pas aussi puissants qu'on l'imagine, ils sont d'autant moins puissants qu'on les croit puissants. C'est à l'instant même où on les croit forts qu'en réalité ils sont faibles, et c'est à l'instant même où on les croit faibles qu'ils sont en réalité forts. Pour une raison très simple, c'est que si vous croyez que vous êtes manipulé par les médias, qu'ils ont la capacité de vous manipuler, vous allez vous méfier. Et vous allez leur opposer une espèce de contrepoison à ce que vous considérez comme étant du poison.
C'est la théorie du complot.
Vous allez vous immuniser contre eux. Si à l'inverse vous dites les médias manipulent tout le monde, mais pas moi, si vous vous croyez par conséquent non manipulable, c'est à ce moment-là qu'à votre insu, évidemment, les médias vont vous manipuler. Alors ça, c'est la première raison pour laquelle je n'aime pas qu'on parle du... J'aime pas l'expression quatrième pouvoir, parce que c'est une capacité d'influence, ça fait circuler des idées, mais après tout, tout dépend de ce que les gens en font, et tout dépend de leur capacité de résistance, tout dépend de leur esprit critique, tout dépend de leur crédulité. On n'est pas obligé de prendre pour parole d'évangile, si j'ose utiliser cette expression, tout ce que nous disent les médias. Et fort heureusement, les enquêtes montrent que les gens ne prennent pas pour argent comptant tout ce que les médias leur racontent.
Ils sont même très critiques.
C'est assez satisfaisant. La deuxième raison pour laquelle je n'aime pas l'expression, c'est que ce n'est pas un pouvoir à l'égal des deux ou des trois autres. C'est une capacité d'influence, mais ce n'est pas un pouvoir de contraindre. Personne ne vous oblige à regarder la télévision, personne ne vous oblige à lire et à acheter et à lire les journaux. Alors que tout le monde est soumis à la loi qui était dictée par le législateur. Tout le monde est obligé de respecter les décrets qui sont pris en application de ces lois. Et si on ne les respecte pas, on risque évidemment d'aller devant les tribunaux et éventuellement de se retrouver en prison. Par conséquent, là, c'est véritablement un pouvoir de contrainte qui est accepté parce que c'est notre contrat social, c'est le contrat de la société dans laquelle nous sommes. Il n'y a pas de société sans contrat et il n'y a pas non plus de société sans loi, donc sans interdit. Et la troisième raison pour laquelle je n'aime pas cette expression, c'est que ça donne à penser qu'après tout, il faudrait organiser le pouvoir des médias être, comme on a organisé, et c'est le but de notre Constitution, les pouvoirs de l'État, c'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Tout le monde sait qu'il y a une loi suprême, c'est la Constitution. Sur Internet, c'est quoi, très concrètement ? C'est la possibilité d'obtenir ce que l'on veut, quand on le veut. C'est-à-dire de télécharger un programme d'information, un programme musical, à l'heure que vous voulez, très exactement comme je peux lire mon journal quand je le veux et dans l'ordre que je veux. C'était seule la télévision, lorsqu'elle était rare, qui véritablement nous emprisonnait dans ses grilles. Je ne pouvais pas regarder un programme à une autre heure que celle à laquelle il était programmé. J'étais véritablement prisonnier de cette chaîne, prisonnier de ses grilles.
Ah ben, le journal de 20 heures restera à 20 heures.
Écoutez, le journal de 20h reste à 20h parce que simplement les habitudes des gens n'ont pas changé et que chaque fois qu'on a essayé d'en mettre un à une autre heure, on était sûr que ce n'était pas un journal fédérateur, comme on dit, c'est-à-dire qu'on ne trouvait pas devant soi un public disponible aussi nombreux qu'à 20h. Mais le journal de 20h, il est à 18h aux États-Unis. Tout dépend des habitudes. Et il est à 21h en Espagne. Par conséquent, et il est probablement beaucoup plus tôt dans les pays scandinaves. Tout dépend des habitudes des gens. Les rendez-vous ne sont pas fixés à la même heure selon les pays et selon les habitudes des pays.
Donc Internet, un bon outil d'information.
Oui, c'est un bon outil d'information dans la mesure où je sais m'en servir, où grâce au moteur de recherche, je sais faire le tri parce que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile quand on a peu d'informations disponibles de s'y retrouver que quand on en a beaucoup. La difficulté pour Internet, c'est qu'on en a beaucoup. Et on en a beaucoup trop. Vous savez très bien que quand on essaie deux ou trois mots-clés par un moteur de recherche que je ne nommerai bien sûr pas, mais par l'un des moteurs de recherche les plus connus, on voit défiler un trop grand nombre d'articles. Par conséquent, la difficulté, c'est de ne pas être noyé dans l'océan. Et pour ne pas être noyé dans l'océan, il faut avoir soi-même évidemment quelques repères pour pouvoir immédiatement faire le tri. Plus vous êtes face à l'abondance, plus le risque est grand d'être noyé et plus la difficulté est grande de faire le choix pertinent.
Dominique Volton dénonce le risque de fractionnement social qui résulterait d'un excès de communication ciblée sur Internet, justement. Autrement dit, le risque de dégradation des moyens de protéger le secret de la vie privée est aujourd'hui considérable. C'est ce qu'il dit en clair. Vous partagez ce point de vue ?
Je ne vois pas très bien le lien entre le respect de la vie privée et la fragmentation. Parce que la fragmentation, elle existe forcément quand il y a abondance. Les journaux n'ont jamais été aussi abondants qu'aujourd'hui. Et à côté des journaux qui s'adressent à tout le monde, il y a de plus en plus de journaux qui ne s'adressent qu'à quelques-uns, centrés sur une catégorie d'âge ou centrés sur un sujet particulier. Par conséquent, ce qui est vrai, c'est que nous consommons de moins en moins, nous sommes de plus en plus différents dans les usages que nous faisons des médias, puisque nous avons le choix. Donc,
mais le risque n'est pas renforcé de dégradation, ce qu'il dit, hein, des moyens de protéger le secret de la vie privée.
Mais je ne vois pas en quoi le fait qu'il y ait beaucoup de médias, que par conséquent nous ayons à notre disposition des médias généralistes et des médias spécialisés, comporte.
Le panel étant plus large, peut-être que la porte est plus ouverte que.
Pour la vie privée. De toute façon, la législation est la même pour tous les médias, pour la radio, pour la télévision, pour Internet et pour la presse écrite. La législation est exactement la même et les tribunaux ont exactement la même vigilance lorsqu'il est porté atteinte à la vie privée. Lorsque
ce n'est pas plus difficile pour Internet.
Lorsque certaines manipulations ont pu être faites et que certaines personnes se sont retrouvées dénudées sur Estelle Hallyday, par exemple, s'est retrouvée dénudée sur un site web. Elle a pu se retourner vers les tribunaux et obtenir évidemment satisfaction, puisque de toute évidence, elle n'avait pas accepté de se trouver dans cette situation. Mais elle s'est retournée vers les responsables de l'édition de ce programme, comme elle se serait retournée vers n'importe quel magazine s'il avait fait la même chose. Donc, ce qui est important, c'est la législation et c'est surtout la façon dont les tribunaux veillent au respect de cette législation. Si les tribunaux sont laxistes, là, les chartes de déontologie, pardonnez-moi, mais ça me fait un peu sourire, parce que la responsabilité collective d'une profession, c'est souvent un alibi pour être irresponsable individuellement. Rien ne remplace la responsabilité individuelle. C'est seul le journaliste qui sait en son âme et conscience ce qu'il peut dire ou ce qu'il ne peut pas dire. Si, lorsqu'il tient une information de quelqu'un, il n'a pas à la vérifier, et lorsqu'il la tient de quelqu'un d'autre, il doit la vérifier plutôt 5 fois. Qui peut dire qu'il faut vérifier 3 fois, 5 fois ou 1 fois ? Il y a des gens auxquels vous avez confiance et peut-être que ça vaut pas la peine d'aller vérifier une deuxième fois.
Finalement, si je vous comprends bien, nous arrivons au terme de cette émission. Francis Ball, ça sera la conclusion. Tout cela est aussi et peut-être surtout question d'éducation à la base, non ?
Oui.
De tous les opérateurs, oui, que ce soit les journalistes, les opérateurs
crois,
internet.
Je crois, parce qu'au sens large du terme, vous avez 1001 fois raison. Parce que inculquer l'esprit critique à ceux qui écoutent les gens à la radio, c'est très bien. C'est très bien parce que ça leur permet de dialoguer en quelque sorte avec ce qu'on leur dit et de réfléchir à partir de ce qui leur est dit et de donner du sens à ce qui leur est dit. Et en même temps, l'éducation, c'est aussi une certaine éthique, une certaine morale, c'est-à-dire l'exercice d'une certaine...
Vous écoutez Canal Académie.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de l'histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Radio Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Radio Canal Académie.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.